Bonjour.
Bonjour Toufik, bonjour à tous. Israël va bloquer 138 millions de dollars destinés aux Palestiniens, aux familles de prisonniers ou d'anciens prisonniers plus exactement. Une façon pour l'État hébreu de lutter contre ceux qu'il appelle terroristes. Une aide importante qui s'évapore, répondent les familles, vous les entendrez. Dans ce journal aussi, parole d'un gilet jaune de la première heure. En 3 mois de mobilisation, il a vu les demandes évoluer et s'agréger, dit-il. Et puis peut-on rédiger des textes administratifs en écriture inclusive? Le gouvernement l'interdit. Des avocats vont devant le Conseil d'État. Israël a donc décidé de geler 138 millions de dollars que le pays devait verser à l'autorité palestinienne. Ce montant correspond, selon l'État hébreu, aux allocations versées aux familles de prisonniers et d'anciens prisonniers palestiniens pour l'année 2018. La loi qui permet ce gel des fonds avait été votée en juillet dernier. Et après le meurtre d'une jeune israélienne par un palestinien il y a 10 jours, le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a décidé d'appliquer cette loi. Pour les Israéliens, il s'agit de lutter contre le terrorisme, disent-ils, une mesure dénoncée évidemment par les Palestiniens qui, eux, ont des prisonniers et les font de ces prisonniers des héros de leur cause nationale. C'est ce qu'a constaté Marine Vlaovic dans le camp de réfugiés d'Al-Amari, près de Ramallah.
Planté sur le seuil de sa maison délabrée, Raled Abou Rouis montre des photos de ses deux fils arrêtés par l'armée israélienne au cours d'affrontements. Pour chacun d'entre eux, cet ouvrier reçoit un peu moins de 350 euros par mois.
Bien sûr que j'ai besoin de cet argent. J'en envoie une partie à mes enfants en prison et le reste me permet de vivre. Depuis qu'ils ont été arrêtés, je n'ai plus de permis pour travailler en Israël. Comment je ferais sans cet argent ?
Héros de la lutte contre l'occupation pour les Palestiniens, terroristes pour les Israéliens, les portraits de prisonniers ornent les ruelles d'Al-Amari. Cette aide versée à leur famille est surtout très symbolique pour Armat Tamale, membre du comité qui gère ce camp de réfugiés.
Ceux qui vont en prison, ils sacrifient leur futur, tout pour la Palestine. Et nous, qu'est-ce qu'on leur donne en retour? Ces allocations sont un minimum. Nous ne voulons pas arrêter de leur verser cet argent, car ce serait manquer de respect à ceux qui donnent leur vie pour nous.
Dans les territoires occupés, près de 11 000 familles de détenus et d'ex-détenus touchent ces allocations, selon Kadoura Fares, le président du club des prisonniers palestiniens.
C'est avant tout notre argent, c'est de l'argent palestinien et ce n'est pas un cadeau que nous faisons aux familles. Nous soutenons ainsi des gens qui n'ont pas d'autres sources de revenus et notre peuple a le droit de se battre pour sa liberté selon le droit international.
L'autorité palestinienne, qui dénonce un acte de piratage de la part d'Israël, s'est engagée à poursuivre le versement de ces allocations controversées.
Marine Vlaovic, correspondante de RFI pour France Culture près de Ramallah. Le groupe de Visegrad, Hongrie, Pologne, République tchèque et Slovaquie se réunit aujourd'hui à Jérusalem. C'est la première fois que ces 4 pays ont choisi un lieu hors de leurs frontières pour se réunir. Mais déjà, le premier ministre polonais annule sa visite. Une décision qui intervient après une controverse suscitée par des propos attribués par des médias israéliens. Des propos qu'aurait tenu le premier ministre Benjamin Netanyahou sur le rôle des Polonais dans la Shoah. Nous y reviendrons plus longuement dans le journal de 7h. Berlin va rapatrier les individus soupçonnés d'avoir appartenu au groupe État islamique en Syrie, à une condition toutefois, qu'ils disposent d'un accès consulaire. C'est ce qu'a précisé la porte-parole du ministère allemand de l'Intérieur hier, alors que ce week-end, le président américain Donald Trump a de nouveau demandé aux États de rapatrier leurs ressortissants de Syrie. Sur place, l'offensive de la coalition arabo-kurde près de Deir ez-Zor continue. Les Américains, dont certains soldats, sont jusqu'au 1er mars prochain au Burkina Faso et en Mauritanie, 2 pays du G5 Sahel. Chaque année, depuis 14 ans, se déroule en effet le Flintlock, le plus important exercice d'opération spéciale et d'entraînement militaire entre nations africaines, américains et européens. L'idée est de former à la lutte contre le terrorisme. Plus de 2000 soldats vont donc y participer et ils seront notamment au Burkina Faso. Le Burkina qui a terriblement besoin d'aide, Nathalie Hernandez.
Ce week-end encore, le Burkina Faso a été la cible d'attaques terroristes. Un prêtre espagnol et 4 douaniers ont été tués dans l'est du pays. Depuis 4 ans, le pays des hommes intègres est confronté à une vague d'attentats djihadistes sans précédent. 324 attaques, plus de 340 morts et des forces de sécurité qui semblent bien impuissantes. Le Burkina Faso a donc décidé depuis peu de réorganiser son armée et l'exercice Flintlock et ses forces spéciales tombent à point nommé pour l'aider à progresser, explique Jean-Marc Tanguy, grand reporter au magazine Red.
Les opérateurs des forces spéciales d'Afrique apprennent quand même à pouvoir progresser sur toutes sortes de sujets, que ce soit le tir, la patrouille endurante, mais surtout qu'elles sortent un petit peu de ce qui est pour l'instant une partie de leur emploi dans certains pays, c'est-à-dire une sorte de garde prétorienne.
La Mauritanie a, elle, en revanche, pris beaucoup plus d'avance, rappelle le grand reporter Jean-Marc Tanguy.
La Mauritanie elle-même a été victime de ce genre d'attaque au début des années 2000. Elle a également connu à cette époque des enlèvements de ressortissants étrangers et elle a pris le sujet à bras-le-corps. En 2008, quand le président Abdelaziz a été élu, il a créé ce qu'on appelle les GSI, les groupements spéciaux d'intervention. Ce sont des équipes assez resserrées, mais très bien équipées, très bien formées et surtout très volontaires pour aller au contact. Le premier a été formé, c'est pas forcément très bien connu, par les forces spéciales françaises. Puis ensuite, après 2010, ces GSI ont même opéré au Mali voisin, puisque c'est là que, à l'époque, les groupes armés terroristes prospéraient.
Il y a aujourd'hui en Mauritanie 6 groupements spéciaux d'intervention. D'autres vont être créés afin de couvrir tout le pays.
Près de 1500 personnes, selon la police, ont défilé hier à Paris pour marquer les 3 mois du mouvement des Gilets jaunes. Une mobilisation pacifique hier dans son ensemble. Beaucoup de manifestants tiraient d'ailleurs un bilan plutôt positif. C'était le cas de Guillaume, bibliothécaire, qui a enfilé un gilet jaune le 17 novembre dernier, il y a donc 3 mois. Il se montre optimiste quant à la suite.
Le gouvernement a différé un certain nombre de mesures, que ça soit sur la santé, que ça soit sur l'éducation, etc. Et que là, la population commence à se rendre compte qu'il y a une série de mesures qui arrivent, qui sont totalement contradictoires avec ce que revendiquent les Gilets jaunes depuis maintenant des mois. C'est-à-dire notamment le fait qu'il faut non pas détruire, mais renforcer les services publics, par exemple. Il va y avoir encore des centaines de classes qui vont fermer, des maternités qui vont fermer. Et ces revendications, là, elles sont légitimes. Et moi, j'ai bon espoir que le fait que les Gilets jaunes tiennent bon va permettre que d'autres secteurs de la population viennent revendiquer avec nous. Je pense que le mouvement, il doit être un lieu de convergence. Ça a été un peu le cas le 5 février dernier quand la CGT et Solidaires ont appelé à une journée de mobilisation. Ça a mêlé ce qu'on pourrait appeler des gilets rouges et des gilets jaunes. C'était une première étape et je pense qu'il faut aller vers une convergence des différentes mobilisations pour les salaires, pour les services publics, pour la défense des hôpitaux, pour ce type de choses. Il y a une réticence de la part d'une partie des gilets jaunes qu'on peut comprendre. Parce qu'effectivement, il y a une crise aujourd'hui de la représentation politique, mais y compris de la représentation syndicale. Donc il y a des réticences qui sont fortes, mais on voit qu'aujourd'hui, dans plein de villes, sur plein de ronds-points, il y a des gilets jaunes de la première heure, et puis il y a des syndicalistes, des militants associatifs, des militants pour le droit au logement, et ça, c'est très positif.
Voilà pour ce témoignage d'un gilet jaune au micro de Pierre-François Plessis pour France Culture. Et ce gilet jaune évoquait notamment les fermetures de maternité contre certains se battent, contre lesquelles certains se battent. Aujourd'hui, la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, se rend à la maternité de Bernay, dans le département de l'Eure. Avec l'Agence régionale de santé, elle souhaite mettre fin aux accouchements. Elle invoque des problèmes de sécurité et devrait donc s'en expliquer sur place. C'est un recours inédit devant le Conseil d'État. Un collectif de juriste a décidé d'attaquer une circulaire du Premier ministre Édouard Philippe. Le texte interdit l'écriture inclusive et le point médian pour les textes administratifs. C'est une atteinte à la liberté d'expression, selon ces juristes, et notamment Maître Benjamin Pitchot. Il estime que cette circulaire tendrait à rendre invisibles les femmes et c'est en pleine contradiction avec les vœux affichés par le gouvernement, dit-il.
Quand on publie une vacance pour un poste dans l'administration, on n'est pas en train de faire du Rimbaud, on n'est pas en train de faire du François Villon. Donc là, effectivement, le point médian a son utilité, il a son efficacité. Ne mélangeons pas tout, tous ces niveaux de langue coexistent. L'écriture avec le point médian est parfaite pour le niveau administratif. C'est-à-dire que si le Parlement, par exemple, veut voter une loi qui utilise le point médian, on ne pourra pas en assurer la publication au journal officiel. C'est un vrai problème de constitutionnalité ici. C'est un problème de séparation des pouvoirs. On a souhaité défendre la liberté pour chacune et chacun de s'exprimer comme elle et il le souhaite, que ce soit avec un point médian, que ce soit avec une règle quelconque. Le deuxième point est lié bien sûr au fait de permettre l'apparition des femmes dans notre langage, puisqu'on sait très bien que le langage structure notre monde et que si on fait disparaître les femmes de notre langue, on va les faire disparaître de l'espace public, des postes à responsabilité et de notre monde, justement, in fine.
La journée sera décisive pour le nouveau film de François Ozon. Un juge des référés du TGI de Paris doit rendre sa décision cet après-midi sur un éventuel report de la sortie de ce film qui s'intitule « Grâce à Dieu ». Il relate des agressions sexuelles dans l'église catholique et notamment dans le diocèse de Lyon, évoquant le père Prénat mis en examen. Une légère perturbation pluvieuse arrive par les côtes bretonnes et la basse Normandie aujourd'hui. Le ciel va donc se charger progressivement par l'ouest, mais il restera bien ensoleillé partout ailleurs, avec 5 degrés à Besançon, 7 à Paris, 9 à Bordeaux, 11 degrés à Nice.